VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Dakar, 17h à Bangui, bienvenue à notre journal. Crise en Gambie, le secrétaire général des Nations Unies condamne l'occupation du siège de la commission électorale gambienne par les forces de sécurité hier, au moment même où quatre chefs d'État d'Afrique de l'Ouest s'apprêtaient à arriver à Banjul pour tenter de trouver une solution à la crise. La délégation ouest-africaine est repartie sans parvenir à un accord sur le départ du président gambien Yahya Jammeh, qui refuse de reconnaître sa défaite face au leader d'opposition Adama Barrow aux récentes présidentielles. Abdourahmane Dia.
Il faudra encore attendre pour voir la Gambie trouver une solution au statu quo né du revirement de Yahya Jammeh. Les quatre chefs d'État libériens, sierra-léonais, ghanéens et nigériens sont repartis sans donner d'informations claires sur la suite du processus. La libérienne Ellen Johnson Sirleaf, qui dirigeait la délégation, a tout simplement dit à la presse qu'il fallait plus qu'une journée pour trouver une solution. Le parti du président gambien a, lui, entamé la bataille judiciaire en déposant un recours devant la Cour suprême. Le seul problème est que cette Cour n'est pas au complet. Car en ce moment, elle n'est constituée que d'un seul juge venu du Nigeria. L'ordre des avocats gambiens estime que cette Cour ne peut pas statuer et demande à Yahya Jammeh de reconnaître sa défaite. Mais rien n'indique que ce sera fait. Hier, les forces de sécurité ont investi le siège de la commission électorale et son président, Aliou Momon Ndiaye, a été empêché d'accéder à son bureau. Il s'est par la suite dit inquiet pour sa sécurité, un acte que le secrétaire général de l'ONU considère comme un acte de défiance envers la communauté internationale et prévient que ceux qui seraient responsables de violations de droits humains pourraient répondre de leurs actes.
En Guinée-Bissau, le gouvernement formé par Umaro Sissoko Embalo a finalement prêté serment mardi, près d'un mois après la nomination par le président José Mario Vaz d'un nouveau Premier ministre pour sortir le pays d'une longue crise politique. Les détails avec Nani Talani.
Les membres de la nouvelle équipe ont juré de remplir leurs fonctions avec droiture et abnégation. Elle est composée de 37 membres, dont 4 femmes. La plupart des membres de l'ancien gouvernement ont été reconduits. Parmi les arrivants figurent le ministre des Affaires étrangères, Georges Malou, du Parti de la Rénovation sociale, première formation de l'opposition, et 3 dissidents du parti au pouvoir. Les finances sont confiées à Diao Mamadou Fadia, actuellement directeur du bureau local de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. 2 petites formations ont reçu les portefeuilles du commerce et du tourisme. Lors de la cérémonie, le Premier ministre Embalo a remis au chef de l'État une enveloppe contenant une déclaration de ses biens et a demandé aux membres du gouvernement de faire de même dans les 48 heures. C'est pour marquer une différence dans la gestion. Nous devons tous donner des preuves de transparence, surtout quand nous gérons des biens publics, a-t-il déclaré.
RDC, le gouvernement congolais a suspendu le championnat de football de première division, la Linafoot, par crainte de violence vers la fin du mandat du président Joseph Kabila. Depuis plusieurs mois, le public de Kinshasa profite des matchs disputés par les équipes de la Linafoot ou par le 11 national, les Léopards, pour entonner des slogans hostiles au chef de l'État, dont le mandat arrive à expiration le 19 décembre. Et toujours en RDC, poursuite des négociations pour sortir le pays de l'impasse politique à quelques jours seulement de la fin du mandat du président Kabila, mais ce sera sans la coalition autour du président, autour du parti de Jean-Pierre Bemba, le MLC, le Mouvement de Libération du Congo. Le Front pour le Respect de la Constitution, qui a quitté ses assises, reste sur sa stratégie qui consiste à mettre en garde contre la violation de la Constitution congolaise. Écoutez le sénateur Raymond Ramazani Baya.
Pour le moment, la décision a été prise de confirmer notre retrait. Mais tous les amis qui nous appellent, tous les partenaires qui veulent que nous continuions à examiner la possibilité et les nouvelles conditions de notre participation, on va les examiner. Nous ne voulons pas fermer la porte. Le dialogue technique veut dire que nous voulons absolument arriver à fixer les échéances du calendrier électoral. Deux, que nous fixions des garanties pour qu'on ne vienne pas dans 4 mois, dans 6 mois, nous dire encore, on n'a pas eu le moyen, on n'est pas prêt, parce que nous puissions cette fois-ci nous mettre d'accord que le changement, l'alternance, va se faire par les élections, et pas toujours à travers des conciliabules, pas toujours à travers des dialogues. Il faut que le cycle électoral puisse être respecté.
le sénateur Raymond Ramazani Baya du Mouvement pour la libération du Congo.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Centrafrique, environ 150 participants sont attendus à la première concertation sur la chefferie traditionnelle, dont les travaux s'ouvriront le vendredi 16 décembre à Bangui en présence du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Cet événement, organisé par l'ONG Afrique Secours et Assistance, ASA, entre dans le cadre de la cohésion sociale et de la paix basée sur la redynamisation de l'État par la base. Il découle des recommandations du forum de Bangui. Les explications d'Evelyne Adam, représentant en RCA de l'ASA, jointe par Félix Yepassi Zembrou.
La tenue d'une concertation des chefs traditionnels à Bangui répond à un constat que nous avons fait, c'est que à Bangui, nous avons cherché pour la résolution de la crise en Centrafrique tous les moyens de résoudre la crise, sauf de regarder nous-mêmes dans nos traditions. Est-ce qu'il y a des réponses véritables pour résoudre les crises? Nous, nous pensons que la réponse est oui. Il faut faire un retour aux sources, chercher dans nos sources si nous avons les moyens de pouvoir résoudre nous-mêmes nos crises. C'est ainsi que nous décidons, en tout cas, de faire la concertation nationale avec les chefs. Dans un symbole, c'est la Centrafrique. La Centrafrique, c'est le centre de l'Afrique.
Quel cadre juridique est préconisé pour la chefferie traditionnelle?
C'est vrai qu'il n'y a pas véritablement de cadre parce que l'ordonnance qui est présente en Centrafrique, c'est une ordonnance qui est déviée, qui date depuis la colonisation. Donc ce que nous sommes en train de chercher à faire avec le ministère de l'Intérieur, c'est de voir comment est-ce qu'on peut proposer une nouvelle loi à l'Assemblée nationale qui va redynamiser justement la chefferie traditionnelle en Centrafrique.
Quel rôle la chefferie traditionnelle pourra-t-elle jouer auprès de l'autorité de l'État?
Ce que la chefferie traditionnelle faisait quand c'était le Centrafrique. La chefferie traditionnelle, les chefs étaient les garants du patrimoine. Les chefs étaient les garants de la paix. Les chefs étaient les garants du bon vivre ensemble. Et la meilleure manière de justement gérer nos villages, la meilleure manière d'inculquer à nos jeunes les notions de citoyenneté, du respect de la hiérarchie, c'est d'abord de donner ce pouvoir-là à nos chefs pour qu'au plan local, ils puissent pouvoir gérer leur localité.
Cette concertation est une grande première, c'est la toute première concertation en Centrafrique?
Oui, c'est une grande première en Centrafrique. C'est pour ça que nous sommes heureux de voir que nous avons l'appui du gouvernement centrafricain qui, avec tous les ministères, nous appuie véritablement. Nous avons l'appui aussi de certains bailleurs tels que de HR, le PNUD. C'est vraiment une grande première en Centrafrique. On espère que cela donnera les résultats escomptés.
Elle regroupera cette concertation tous les chefs traditionnels du pays, de la République centrafricaine?
Nous n'aurons pas tous les chefs traditionnels, mais nous aurons les plus représentatifs et ceux qui ont pignon sur nous. Donc nous avons demandé au ministère de l'Intérieur de nous aider dans ce débat.
Evelyne Adam, représentante en Centrafrique de l'ONG Afrique Secours et Assistance, ASA. Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir a appelé ce mercredi à la tenue d'un dialogue national ouvert à tous, y compris les opposants en exil, pour rétablir la paix 3 ans après le début de la guerre civile. Aussi longtemps que je serai président, je ne permettrai pas à ce pays de se désagréger, a déclaré M. Kiir devant le Parlement, en promettant de garantir la sécurité et la liberté de tous les acteurs qui participeront au dialogue national, y compris ceux qui sont actuellement hors du pays et qui sont opposés à son gouvernement. Conflit en Syrie maintenant, l'accord prévoyant l'évacuation des civils de la ville d'Alep a été suspendu après des objections du régime du président Bachar al-Assad. Les détails avec Nani Talani.
Le régime syrien a exprimé son désaccord sur le nombre élevé de personnes qui devaient être évacuées. Damas veut également avoir une liste de tous ceux qui vont sortir pour s'assurer qu'il n'y a aucun otage ou prisonnier pro-régime. De leur côté, les rebelles soutiennent que le régime et ses alliés, notamment iraniens, ont imposé de nouvelles conditions, donc l'accord est suspendu. Yasser al-Youssef, responsable d'un groupe rebelle, accuse le régime d'avoir voulu lier cet accord à d'autres dossiers, notamment Foua et de Kefraya, deux localités assiégées par les rebelles dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest du pays. La Turquie accuse également le régime syrien et les groupes armés qui lui sont affiliés d'empêcher la mise en œuvre du cessez-le-feu. Pour le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlut Cavusoglu, l'évacuation n'a pas pu avoir lieu et la faute repose sur Damas.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.